Chapitre 1. Le navire fou. Sur son visage et sa poitrine, la brise était froide et vivifiante, chargée pourtant d'une promesse de printemps. L'air avait un goût iodé. La marée, en se retirant, avait abandonné le varech en plaques sur la grève. Sous sa coque, le sable grossier était encore humide de la dernière pluie. La fumée du petit feu d'ambre lui picotait les narines. La figure de proue détourna son visage aveugle, puis tendit le bras pour se gratter le nez. « C'est une belle soirée, tu ne trouves pas ?» lui demanda-t-elle, cherchant à engager la conversation. « Le ciel s'est éclairci. Il y a encore des nuages, mais je peux voir la lune et quelques étoiles. J'ai ramassé des moules et je les ai enveloppées dans des algues. Quand le feu aura bien pris, j'étalerai le bois et je les cuirai sur les braises. » Elle se tut, espérant une réponse. Parangon ne réagit pas. « Tu ne voudrais pas y goûter quand elles seront cuites ? Je sais que tu n'as pas besoin de manger, mais tu trouveras peut-être l'expérience intéressante. » Il bâilla, s'étira et se croisa les bras sur la poitrine. Il était bien meilleur qu'elle à ce jeu. 30 ans d'échouage sur une plage lui avaient enseigné la véritable patience. Il résisterait plus longtemps qu'elle. Se fâcherait-elle ou serait-elle peinée ce soir? « À quoi ça rime que tu refuses de me parler ?» demanda-t-elle d'une voix mesurée. Il devinait que sa patience commençait à s'émousser. Il ne se donna pas la peine de hausser les épaules. « Parangon, tu es un crétin fini. Pourquoi ne me parles-tu pas? Tu ne comprends donc pas que je suis la seule à pouvoir te sauver ?»« Me sauver de quoi ? » aurait-il pu rétorquer, s'il lui avait parlé. Il entendit qu'il se levait et contournait la proue pour se planter en face de lui. Il prit un air détaché et détourna son visage défiguré. « Bon, très bien. Fais semblant de m'ignorer. Que tu me répondes ou non, ça m'est égal, mais tu dois m'écouter. Tu es en danger, en grand danger. » « Je sais que tu t'opposes à ce que je te rachète à ta famille, mais j'ai quand même fait une offre. Ils l'ont refusée. » Parangon s'autorisa un petit reniflement de dédain. Bien sûr, ils avaient refusé. Il était la vive nef de la famille Lutchance. Il avait beau être leur opprobre, ils ne le vendraient jamais. Ils l'avaient gardé enchaîné, ancré à cette plage durant quelque 30 ans, mais ils ne le vendraient jamais. Ni à Ambre, ni au nouveau marchand, pour rien au monde. Il l'avait toujours su. Ambre poursuivit obstinément. « Je me suis adressé directement à Amis Lutchance. Cela n'a pas été facile d'arriver à la rencontrer. Quand enfin nous avons pu discuter, elle a feint d'être scandalisée par mon offre. Elle a répliqué que tu n'étais pas à vendre, à aucun prix. » Elle a dit la même chose que toi. Pas une famille marchande à Terrilleville ne vendrait sa vive nef. Cela ne se fait pas, un point c'est tout. Parangon ne put réprimer le sourire qui le transfigurait peu à peu. Ainsi, il se souciait encore de lui. Comment avait-il pu jamais en douter? En un sens, il était presque reconnaissant à Ambre d'avoir fait cette offre de rachat ridicule. Maintenant qu'Émis Lutchance avait reconnu devant un étranger qu'il faisait toujours partie de la famille, cet aveu l'inciterait peut-être à venir le voir. Et si elle venait le voir, sa visite pourrait aboutir à changer les choses. Peut-être parcourrait-il à nouveau les mers avec, à la barre, une main amicale. Son imagination s'emballa. La voix d'Ambre le ramena brutalement à la réalité. Elle a prétendu être bouleversée qu'on ait pu même évoquer cette vente. Elle a ajouté que c'était faire insulte à l'honneur de la famille. Puis elle a dit, et Ambre baissa le ton sous l'effet de la peur ou de la colère, elle a dit qu'elle avait engagé des hommes pour te remorquer hors de Terrilleville. Que ce serait mieux pour tout le monde si tu disparaissais, et qu'on t'oubliait. » Ici, Ambre ménagea un silence lourd de sens. Parangon sentit sa poitrine de bois sorcier se serrer.
Alors, je lui ai demandé qui elle avait engagé.
Il leva vivement les mains et les plaqua sur ses oreilles. Il n'écouterait pas. Elle allait jouer avec ses peurs.
Ainsi, sa famille allait le déplacer.
Cela ne voulait rien dire. Ce serait agréable d'être autre part. Peut-être cette fois, après l'avoir remorqué, le calerait-il à l'horizontale. Il en avait assez d'être toujours à la gîte.
Elle a dit que cela ne me regardait pas,
poursuivit Ambre en haussant le ton.
Je lui ai demandé s'il s'agissait de marchands de Terrilleville. Elle m'a toisé d'un air furieux. Alors je l'ai questionné sur l'endroit où Mingsley allait t'emmener pour te démembrer.
Parangon se mit à fredonner éperdument, fort.
Ambre continuait à parler.
Il ne l'entendait pas. Il ne voulait pas l'entendre. Il se boucha plus profond les oreilles et chanta.
Un sou pour une brioche, un sou pour une prune, un sou pour les courses pour aller voir courir les poneys.
Elle m'a mise à la porte, rugit Ambre. Quand j'ai crié que j'en appellerais au conseil des marchands, elle a lâché ses chiens sur moi. Ils ont bien failli m'attraper par-dessus le marché.
« Balance-moi doucement, balance-moi fort, balance-moi jusqu'au ciel. »
Parangon s'obstinait à chanter sa comptine. Elle se trompait. Elle devait se tromper. Sa famille allait le mettre en lieu sûr, c'était tout. Et qu'importait qui ils avaient engagé. Une fois qu'il serait renfloué, il naviguerait de bon cœur. Il leur montrerait comme il était aisé à manœuvrer. Oui, ce serait l'occasion de leur prouver qui il était. Il leur ferait comprendre qu'il regrettait tout ce qu'on l'avait forcé à faire. Elle avait cessé de parler.
Il ralentit sa chanson, se mit à fredonner en sourdine. Hormis sa voix, le silence.
Prudemment, il se découvrit les oreilles. Rien, à part le bruissement des vagues, le crissement du sable chassé par le vent et le crépitement du feu d'ambre. Une question lui vint à l'esprit, et il la formula à voix haute avant de se rappeler qu'il ne lui parlait plus.
« Quand je serai là-bas, tu viendras me voir ?»«
Parangon, cesse de jouer la comédie. S'ils t'emmènent d'ici, ils te débiteront pour récupérer le bois sorcier. »
La figure de proue essaya une nouvelle tactique.
« Cela m'est égal. Ce sera bien d'être mort. »«
Je ne suis pas sûr que tu seras mort, » répondit Ambre, découragée. « J'ai peur qu'il te sépare du navire. Si cela ne te tue pas, ils te transporteront probablement à Jamelia et te braderont comme une curiosité, ou ils t'offriront en cadeau au gouverneur en échange de privilèges et de faveurs. Je ne sais comment tu seras traité là-bas. »
« Cela fera mal ?»
demanda Parangon.
« Je ne sais pas. Je n'en sais pas assez sur ta nature. Est-ce que tu as eu... Quand ils t'ont entaillé le visage, tu as eu mal ?»
Il se détourna aussitôt. Il leva les mains et promena les doigts sur le bois éclaté, à l'emplacement où ses yeux se trouvaient autrefois.
« Oui. »
Il plissa le front. Puis il ajouta dans un souffle.
« Je ne me souviens pas. J'ai beaucoup oublié, tu sais. Mon journal de bord a disparu. »
« Parfois, il est plus facile d'oublier. »
Tu crois que je mens, n'est-ce pas? Tu crois que je me souviens, mais que je ne veux pas l'admettre. »
Il s'en prenait à elle dans l'espoir d'une querelle.
« Parangon, hier c'est hier, on ne peut rien changer. Il s'agit de demain. »
« Ils viennent demain ? »
Je ne sais pas, je parlais au figuré. »
Elle s'approcha soudain et tendit les bras pour poser les mains à plat sur son flanc. Elle portait des gants à cause du froid nocturne, mais il sentait tout de même son contact, la forme de ses mains, comme deux plaques de chaleur sur ses bordages.
« Je ne peux supporter l'idée qu'ils te prennent pour te découper en morceaux. Même si cela ne te fait pas mal, même si cela ne te tue pas, je ne peux pas le supporter. »
« Mais tu n'y peux rien, »
fit-il remarquer. Il se sentit tout à coup mûr pour formuler sa pensée.
« Nous n'y pouvons rien, ni l'un ni l'autre. »« Baliverne de fataliste !»
s'exclama Ambre en colère.
« Il y a toujours quelque chose à faire. Au pire des cas, je resterai ici et je me battrai contre eux, je le jure. »«
Tu n'aurais pas le dessus ?» rétorqua Parangon. « Ce serait stupide de te battre en sachant que tu vas perdre. »«
On verra bien, » répliqua Ambre. « J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Je ne veux pas attendre que la situation devienne à ce point désespérée. J'ai l'intention d'agir avant eux. Parangon, nous avons besoin d'aide. Il faut que quelqu'un parle pour nous au Conseil des marchands. »
« Tu ne peux pas, toi ?»«
Tu sais bien que non. Seuls les premiers marchands peuvent assister à ces réunions. Alors, y prendre la parole, il nous faut quelqu'un qui les convainque. Ils doivent empêcher les luttes chances d'agir ainsi. »«
Qui ?»«
J'espérais que tu connaîtrais quelqu'un prêt à plaider pour toi, »
dit Ambre d'une toute petite voix. Parangon garda un moment le silence, puis il eut un rire amer.
« Personne ne plaidera pour moi. C'est peine perdue, Ambre. Réfléchis. Ma propre famille elle-même ne se soucie pas de moi. Je sais ce qu'on dit de moi. Je suis un meurtrier. Et en plus, c'est vrai, n'est-ce pas? Tout l'équipage perdu. « J'ai roulé bord sur bord, je les ai tous noyés, et pas qu'une fois. Les luttants ont raison, Ambre. Je devrais être vendu et coupé en morceaux. »
Le désespoir le submergea, plus froid et plus violent qu'une lame pendant la tempête.
« Je voudrais être mort, » déclara-t-il. « Je voudrais seulement en finir. » « Tu n'es pas sérieux, »
dit Ambre doucement. Il devina à sa voix qu'elle savait qu'il était sérieux.
« Pourrais-tu me rendre un service ? »
demanda-t-il soudain.
« Lequel ? » ?»« Tue-moi avant. »
Il l'entendit qui retenait son souffle.
« Je... non, je ne pourrais pas. »
« Si tu savais qu'il venait pour me démembrer, tu pourrais. Je vais t'indiquer le seul moyen infaillible. Il faut que tu mettes le feu partout à la fois. Ainsi, ils ne pourront pas l'éteindre et me sauver. Si tu ramasses du bois sec un peu tous les jours et que tu le déposes en fagots dans ma cale...
« Ne dis pas des choses pareilles. » murmura Ambre. Puis elle ajouta distraitement. Il faut que je fasse cuire les moules maintenant.
Il l'entendit remuer les tisons. Il perçut le grésillement des algues humides qui fumaient sur les braises ardentes. Elle faisait cuire les moules vivantes. Il songea à le lui signaler, mais s'en abstint. Cela la bouleverserait et ne la prédisposerait guère en sa faveur. Il attendit qu'elle revînt près de lui. Elle s'assit sur le sable, dos à la coque inclinée. Ses cheveux très fins effleuraient ses bordages et s'accrochaient au bois.
« Tu n'es pas logique, » dit-il avec entrain. « Tu jures que tu te battrais pour moi, tout en sachant le combat perdu d'avance. Mais tu me refuses cette grâce simple et sans danger. »
« La mort par le feu, ce n'est guère une grâce. »
« Non. » Être découpé en petits morceaux, c'est beaucoup plus plaisant, pas de doute, rétorqua Parangon d'un ton sarcastique.
Tu passes si vite de la colère infantile au raisonnement froid, constata Ambre pensivement. Es-tu un enfant ou un adulte? Qu'est-ce que tu es?
Les deux, peut-être. Mais tu changes de sujet. Allez, promets-moi.
Non, dit-elle sur un ton pitoyable.
Il poussa un profond soupir.
Elle le ferait. Il le devinait à sa voix. S'il n'y avait pas d'autre moyen de le sauver, alors elle le ferait. Un tremblement singulier le parcourut. Il avait remporté une étrange victoire.
« Et des jarres d'huile, » ajouta-t-il. « Quand ils viendront, tu n'auras peut-être pas beaucoup de temps. L'huile fera flamber le bois plus vite et plus fort. »
Il s'ensuivit un long silence. Quand elle reprit la parole, sa voix avait changé.
Ils vont essayer de te déplacer en cachette. Dis-moi comment ils s'y prendront.
Probablement de la même façon que la première fois. Ils attendront les vives eaux, ils choisiront certainement la plus grande marée du mois, la nuit. Ils viendront avec des rouleaux, des ânes et des canots. Cela ne sera pas une mince affaire, mais quand on s'y connaît, on peut en venir rapidement à bout.
Ambre réfléchit. Il faudra que j'apporte mes affaires et que je dorme à bord pour monter la garde. Oh, Parangon ! S'écria-t-elle soudain. Tu ne connais personne qui pourrait te défendre devant le conseil?
Personne à part toi.
J'essaierai, mais je doute qu'on m'en laisse l'occasion. Je suis étrangère ici, ils n'écoutent que les leurs.
Tu m'as dit un jour que tu étais respecté à Terrilleville.
Comme artisan et commerçant, ils me respectent. Je ne suis pas une première marchande. Ils ne toléreraient pas que je me mêle de leurs affaires. Il est probable que tout à coup je me retrouverai sans un client, ou même pire. La ville est de plus en plus divisée entre les premiers marchands et les nouveaux. Le bruit court que le conseil a dépêché une délégation au gouverneur avec la charte originale. Et ils vont l'exhorter à honorer la parole de son père Esclépius. On dit qu'ils réclameront le rappel de tous les nouveaux marchands et l'annulation des concessions qui leur ont été consenties. Ils exigent aussi que le gouverneur Kosgo respecte l'ancienne charte et qu'il s'abstienne d'octroyer des concessions sans le consentement des marchands de Terrilleville.
« Tu es bien renseigné ?» fit observer Parangon.
« J'ai l'ouïe fine pour les rumeurs et les ragots. Cela m'a plus d'une fois sauvé la vie. »
Il y eut un silence.
Si je savais quand rentre Althea, dit Ambre d'une voix pleine de regrets, je lui demanderais de parler en notre faveur.
Parangon hésita à mentionner Brachen Trell. Il était son ami, Brachen. Il ne refuserait pas de plaider en faveur du navire. Il était un premier marchand. Mais Parangon se souvint alors que Brachen avait été déshérité. Son ami était comme lui, l'opprobre de sa famille. À supposer même qu'il parvienne à parler au conseil, à quoi servirait le plaidoyer d'une brebis galeuse? Personne ne l'écouterait. Parangon posa la main sur la cicatrice qu'il avait à la poitrine, dissimulant la grossière étoile à sept branches dont on l'avait flétrie. Ses doigts la parcoururent pensivement. Il soupira puis inspira profondément. « Les moules sont prêtes. Je les sens.
Tu veux en goûter une ?
Pourquoi pas?
Tant qu'il le pouvait encore, il se devait de tenter de nouvelles expériences. Il était possible qu'avant longtemps, il en perde à jamais l'occasion.